Genre et préhistoire, le genre dans les premières sociétés agricoles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'association Mnemosyne. Pour animer ce podcast, j'ai avec moi Cécile Béguin, donc vice-présidente de l'association Mnemosyne. Bonjour Cécile.
Bonjour Fanny.
Et nous avons le plaisir aujourd'hui de n'avoir pas une mais deux invités, vous allez comprendre. Nous avons tout d'abord Anne Augereau. Bonjour Anne.
Bonjour.
Donc Anne, tu es archéologue à l'INRAP et spécialiste du néolithique. Et nous avons aussi Clémentine Le Tellier. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Clémentine, tu es la voix des extraits dans ce podcast, mais tu es aussi professeure au lycée Charles Tellier à Condé en Normandie.
Oui, dans cet épisode, nous allons faire connaissance avec Anne Augereau. Anne Augereau vient de faire paraître un ouvrage qui s'appelle « Femmes néolithiques, le genre dans les premières sociétés agricoles » aux éditions du CNRS. Cet entretien sera pour nous l'occasion de vous faire connaître une discipline, l'archéologie du genre, et nous espérons à travers la présentation de ces recherches vous faire partager notre passion pour les analyses de genre appliquées à la préhistoire. Nous pourrons ensuite, comme nous le faisons d'habitude, aborder la question de l'enseignement de la préhistoire dans le secondaire et de la place qui occupe les femmes. Anne, quel est ton parcours de formation, ta spécialité de recherche et tes fonctions actuelles ?
Alors, je suis néolithicienne, spécialiste des premières sociétés agricoles où on a inventé l'élevage, la sédentarisation, la fabrication de la poterie aussi en grand nombre. Et j'ai fait des études d'archéologie et j'ai une première spécialité qui est la fabrication des outils en silex néolithique. Et j'en ai une seconde qui est l'archéologie du genre et j'ai notamment exploré cette question à travers les premières sociétés agricoles de l'Europe centrale jusqu'au bassin parisien. Voilà. Je suis aussi une femme de terrain puisque j'ai dirigé pas mal de fouilles archéologiques dans le contexte préventif, c'est-à-dire les travaux d'archéologie qui viennent avant la destruction des sites par les aménagements du territoire. Et actuellement, je suis adjointe à la directrice scientifique d'un centre archéologique de l'INRAP.
Et peux-tu nous définir l'archéologie du genre ? Expliquer aussi quelle est son importance dans les recherches en préhistoire ?
Alors, pour expliquer l'archéologie du genre, il faut un petit peu expliquer aussi ce qu'est le genre. Le genre, c'est une construction culturelle et les anthropologues, les sociologues et d'autres disciplines des sciences sociales ont montré que le genre a une forte composante matérielle et l'archéologie étant l'étude des traces matérielles des hommes préhistoriques ou pas. Hein. Donc l'archéologie est parfaitement fondée à explorer ce champ disciplinaire. Donc on sait que le genre s'énonce, s'affiche, se matérialise dans les vêtements. On a des vêtements d'hommes, des vêtements de femmes, des vêtements de gens riches, pauvres, etc. On a aussi des postures corporelles avec des attitudes spécifiques aux hommes, aux femmes. On a des activités qui sont liées au sexe aussi. Des activités, des rôles, des métiers spécifiques aux hommes et aux femmes. On a aussi des espaces qui sont genrés, des espaces qui sont réservés aux femmes, des espaces qui sont réservés aux hommes. Et aussi, on a des objets genrés, des outils genrés. Et puis, dernière chose, parce qu'à mon avis, c'est quelque chose de très important en préhistoire, notamment, le genre, il laisse aussi sa marque dans les corps. C'est-à-dire que quand on mène une activité, on peut avoir des traces corporelles en archéologie. Et en préhistoire, on les trouve sur les os. Il y a des pathologies spécifiques, notamment sur la forme des attaches musculaires. Il y a des pathologies ou des modifications osseuses qui sont dues à des mouvements spécifiques. Et du coup, on peut avoir des idées en archéologie sur les activités menées par les hommes et par les femmes à partir des traces osseuses laissées par leurs activités sur leurs os. L'archéologie du genre, ça consiste d'abord à explorer les différences entre les hommes et les femmes et entre les hommes et les femmes qu'on retrouve dans les nécropoles et les cimetières du néolithique ou d'autres périodes. Donc les différences dont j'ai parlé tout à l'heure, les différences dans les pathologies osseuses, dans les marques osseuses, mais aussi dans la manière dont les corps sont ensevelis. Est-ce qu'il y a des aménagements particuliers ? Est-ce que les positions des corps sont toutes les mêmes ? Est-ce qu'on enveloppe les hommes et les femmes, les enfants, les adolescents, les vieillards de la même manière dans les mêmes types de linceuls, par exemple? Est-ce qu'on les met dans des cercueils? Est-ce qu'on fait des architectures particulières au-dessus de la tombe pour distinguer tel type d'individu? Donc c'est aussi dans le traitement funéraire qu'on aborde le genre.
D'accord. Et est-ce que tu peux distinguer pour nous les caractéristiques du travail des archéologues qui travaillent sur le néolithique et celles du travail sur le paléolithique ?
Pour le néolithique, et notamment cette partie du néolithique que je traite dans mon ouvrage, qu'on appelle le Rubanais, la spécificité, c'est qu'on a énormément de données à notre disposition. On a des habitats, on a des fosses à détritus, on a des sépultures, on a des nécropoles aussi, qui sont des groupements de sépultures, si bien qu'on peut avoir une idée assez précise des modes de vie de ces populations, de la manière dont ils ont fabriqué leurs outils, des techniques qu'ils ont mises en œuvre, de leurs pratiques funéraires. On connaît aussi leur réseau d'échange, on connaît leurs activités vivrières et artisanales. Donc on a une assez bonne vision, pour autant que les traces archéologiques nous permettent de le dire, on a une assez bonne vision des modes de vie de ces populations anciennes. Pour le genre, le fait que nous ayons pas mal d'informations sur les sépultures et les nécropoles fait que l'on peut étudier les individus néolithiques. On peut étudier leur parure, on peut étudier leurs vêtements, on peut analyser leurs os, on peut en faire leur biographie. On a un échantillon qui est suffisamment grand pour être représentatif. Pour le paléolithique, les données sont beaucoup plus rares. Les sites sont moins nombreux, les vestiges sont plus ténus et surtout les sépultures sont très rares. On est donc obligé d'embrasser un vaste territoire pour avoir suffisamment de données qui du coup sont un peu dispersées, voire disparates.
Alors, ces dernières années, on a vu de plus en plus d'ouvrages paraître sur les femmes préhistoriques, que ce soit paléolithique ou néolithique. D'ailleurs, les deux sont souvent confondus. Je pense à Marilène Patoumatis, dont l'ouvrage « L'homme préhistorique est aussi une femme » sorti en 2020, a été un beau succès médiatique. Et avant elle, il y a eu Claudine Cohen et ses « Femmes de la préhistoire ». C'était en 2016.
Que savons-nous des femmes de la préhistoire ? Furent-elles reines, déesses, matriarches ou bien passives, sempiternellement traitées par les cheveux, exploitées et dominées? Ont-elles changé au cours des millénaires dans leur apparence physique, dans leur attitude et leurs gestes, leur rôle et leurs statuts sociaux, et dans leur rapport aux hommes? De ces femmes qui constituaient la moitié de l'humanité préhistorique, peu de choses nous sont objectivement connues, et ces questions doivent être abordées avec toute la prudence nécessaire à l'approche d'une réalité lointaine, qui ne se livre à nous que par traces, par bribes, et pour laquelle nous n'avons que peu de possibilités de vérification. Il est indispensable de se livrer à l'examen critique des préjugés, des constructions idéologiques et des interprétations, avant de tenter de faire le point sur les données connues et sur ce que nous pouvons savoir aujourd'hui des rapports entre les sexes dans les sociétés préhistoriques. Extrait de l'avant-propos de Claudine Cohen, « Femmes de la préhistoire », édité chez Belin en 2016.
Ces ouvrages de synthèse, pour certains bien médiatisés, reposent en partie sur les travaux moins médiatisés de dizaines de chercheurs américains et européens dans les laboratoires universitaires ou dans les grands organismes de recherche comme le CNRS ou l'INRAP, et ce, depuis déjà 30 ans. Pourtant, l'archéologie du genre reste une discipline qui a eu du mal à s'imposer en Europe et surtout en France. Alors Anne, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les archéologues français ont été plus rétifs à ce type d'analyse ? Et du coup, avec quelles conséquences sur la recherche ?
D'abord, le milieu de l'archéologie est un milieu sexiste, comme beaucoup de milieux, comme peut-être tous les milieux d'ailleurs. Et l'archéologie n'y échappe pas. Et il y a eu une réticence particulière des archéologues français à s'investir dans les recherches de genre. En partie, sans doute, parce que les hommes avaient les postes les plus importants. Les hommes étaient les plus représentés parmi les archéologues, tout métier confondu, tout métier de l'archéologie confondu. Donc ça, c'est une première donnée. La deuxième donnée, c'est qu'en archéologie française, on a un fort poids de ce qu'on appelle l'archéologie préventive, qui est donc l'archéologie qui vient sauver les vestiges avant leur destruction par les travaux d'aménagement. Et donc cette archéologie préventive, elle fait que des chantiers de fouilles s'enchaînent les uns après les autres, qu'on engrange beaucoup de données et qu'on a parfois peu de temps pour véritablement se poser, analyser ces données de manière sereine et essayer de leur faire dire tout ce qu'elles pourraient leur faire dire en mettant en œuvre des domaines, enfin des, en mettant en faisant appel à des théories qui permettraient d'aller plus loin dans les interprétations et notamment la théorie du genre. Et on a moins de temps pour approfondir les analyses et les interprétations, notamment sous l'angle du genre. Et puis aussi, là je vais peut-être rentrer dans les choses un petit peu techniques, les archéologues du genre, il faut bien le dire, et notamment les archéologues états-uniennes, n'ont pas toujours été convaincantes sur l'intérêt de faire de l'archéologie du genre. Parce que, et là je pense que c'est trop technique, mais bon, j'y vais, l'archéologie du genre s'inscrit dans ce qu'on appelle l'archéologie post-processuelle, qui a remis en cause les fondements anthropologiques du mouvement qu'on a appelé la New Archaeology et qui justement consistait à essayer de trouver le fonctionnement profond des sociétés préhistoriques. Et donc l'archéologie post-processuelle s'est concentrée sur l'individu, l'homme ou la femme préhistorique, par le biais de différentes théories comme ce qu'on appelle l'agentivité, c'est-à-dire la capacité des individus à négocier, à adapter des choses qui leur sont imposées par la société, mais du coup n'a pas proposé véritablement une théorie adaptée pour aborder le genre en archéologie. C'est resté dans des sphères très théoriques, sans partir véritablement des données et sans partir non plus véritablement des enseignements des sciences sociales. Donc ça, ça a rebuté aussi les archéologues et les préhistoriens en particulier, puisque nous avons une tradition en préhistoire qui est aussi issue d'André Leroy-Gourhan, qui a inventé l'ethnologie préhistorique et donc qui consiste à mettre en évidence la manière dont ces populations anciennes vivaient. Donc cette archéologie théorique, trop théorique, a sans doute contribué à rebuter les archéologues français à l'archéologie du genre. Mais c'est bien dommage, parce qu'il n'y avait pas que ce courant-là, il y avait d'autres approches, comme celle défendue par Marie-Louise Stig-Sorensen, et à laquelle je me rattache, qui a justement exploré les liens entre genre et vestiges matériels. Et pour elle, d'ailleurs, les objets et la culture matérielle sont les truchements par lesquels s'accomplit et fonctionne le genre. Donc les archéologues français ont un petit peu rapidement évacué l'archéologie du genre sans en avoir vu toutes les facettes, de mon point de vue. Et la conséquence de tout cela, c'est que la France a pris du retard dans le domaine de l'archéologie du genre, mais rien n'est perdu. On assiste aujourd'hui à une floraison des études de genre en archéologie.
À ce propos, comment expliques-tu les changements qui sont en train de se produire dans ces disciplines ? C'est-à-dire l'intégration de ces problématiques de genre chez certains chercheurs et même leur visibilité éditoriale et médiatique.
Pour moi, le principal déclencheur, ça a été la vague MeToo, qui a atteint tous les secteurs de la société, toutes les disciplines, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient sportive, qu'elle soit tout un tas d'autres métiers. Et donc cette vague MeToo a aussi emporté l'archéologie et les archéologues, et notamment les archéologues français. Et d'ailleurs, récemment, il y a une association qui s'appelle Peitatruel qui a développé tout un tas d'études pour mesurer le sexisme en archéologie. Ces jeunes femmes, puisque ce sont des jeunes femmes, se lancent aussi parallèlement dans des études de genre, dans le milieu francophone, et donc ont développé tout un tas d'études, d'analyses sur le genre. Donc je pense que MeToo couvait aussi un petit peu avant son explosion en 2017. On avait commencé déjà un petit peu à travailler timidement sur le genre, les archéologues français s'étaient rendus compte du retard qu'on avait en la matière. Et donc, avaient commencé à demander à leurs étudiants de s'investir sur le genre. Mais c'est véritablement avec MeToo que les choses ont explosé et que les études, les colloques, les livres ont commencé véritablement à se développer en archéologie et en préhistoire du genre, notamment.
Eh bien, entrons dans le vif du sujet avec l'analyse de ton livre. Donc, tu commences ton ouvrage par un état des lieux de l'archéologie du genre en étant excessivement nuancé sur les travaux qui ont précédé les tiens. J'ai remarqué que tu faisais une grande distinction, enfin en tout cas que tu étais très précise et que tu tentais bien de distinguer les choses que tu considères comme étant acquises et les éléments qui semblent plutôt douteux, incertains. Et du coup, tu es précise, tu localises très soigneusement à chaque fois tes résultats. Est-ce que cette rigueur et cette précision sont liées au fait que tu travailles sur le genre et donc que tu as l'impression que tu dois prendre plus de précautions que si tu ne le faisais pas ?
Non, j'assume totalement la direction que j'ai prise en archéologie du genre. Je n'ai pas à m'en justifier sur la démarche globale. Je n'ai à m'en justifier que sur la pertinence des résultats que je peux réunir. Donc j'assume totalement la manière dont je travaille sur le genre. J'ai pas envie de prendre de plus de précautions que lorsque je travaillais sur les industries lithiques, sur la fabrication des outillages en silex. Mais j'ai souhaité véritablement faire le point de ce que l'on connaissait sur les hommes et sur les femmes, ce qui était sûr, ce qui était moins sûr, ce qui était très hypothétique, de manière à avoir en quelque sorte un marchepied à partir duquel je peux, moi, aller plus loin en développant différentes analyses, différentes approches, mais avoir un socle. Et ça, c'est important parce que ce socle, justement, permet d'aller plus loin et donc de se lancer dans des hypothèses inédites, inexplorées, des pistes inexplorées, etc. Donc j'assume totalement le genre, mais je veux savoir d'abord où on en est pour aborder une question quelle qu'elle soit.
Est-ce que tu peux nous préciser quel est ton espace de recherche, ta période de recherche et aussi quelle est la spécificité de cette aire géographique et de sa population ?
Je travaille sur une culture néolithique qu'on appelle le Rubanais parce que c'est une culture qui se caractérise par une céramique, des pots en céramique qui sont décorés de rubans. Et donc, les archéologues ont appelé cette culture Rubanais à cause de la décoration des pots en céramique. Ce Rubanais, il est né dans le bassin des Carpates aux alentours de 5600 avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, il a essaimé vers l'ouest et vers l'est. Moi, je m'intéresse au Rubanais qui est parti vers l'ouest, qui a traversé l'ensemble de l'Europe centrale, depuis le bassin des Carpates jusqu'au bassin parisien. C'est une culture très homogène, le Rubanais, qui se caractérise par des maisons qui sont quasiment toutes construites sur le même modèle, des maisons longues, orienté est-ouest, avec une architecture semblable d'un bout à l'autre du continent, entre guillemets, rubanais. C'est une culture qui se caractérise aussi par une manière de tailler le silex tout à fait semblable d'un bout à l'autre du continent rubanais, qui se caractérise aussi par un mode de vie, puisque c'est la culture qui va développer, amener l'agriculture, l'élevage et la sédentarité dans toute cette partie de l'Europe. Donc les Rubanais se déplacent de proche en proche, depuis le bassin des Carpates jusqu'au bassin parisien. C'est le même peuple, puisque les analyses ADN montrent que l'ensemble de ces personnes qu'on a analysées sous cet angle possèdent le même bagage génétique. Donc c'est une population homogène sur le plan de l'ADN et de la génétique, mais aussi sur le plan culturel, puisqu'elle amène avec elle la manière de faire les maisons, la manière de tailler le silex, la manière d'enterrer ses morts. Elle emmène aussi les bracelets en spondyle de Méditerranée, qui essaiment sur toute l'aire du Rubanais. Et elle amène avec elle aussi les espèces animales, que sont le bœuf, la chèvre et le mouton, le porc dans une moindre mesure, mais aussi les espèces cultivées de blé. Donc cette culture urbanée amène tout avec elle, depuis le bassin des Carpates jusque dans le bassin parisien.
Et si on entre un peu dans le détail de tes méthodes, comment est-ce qu'on fait pour identifier le sexe biologique ou le genre et l'âge d'un squelette qu'on retrouve dans une nécropole ?
Alors, il y a plusieurs méthodes. La première consiste à mesurer, analyser les os du bassin. L'os coxal, donc l'os du bassin, chez les femmes, a une plus grande échancrure au niveau du pubis pour permettre tout simplement l'accouchement. Chez les hommes, cette échancrure est plus étroite. Donc on peut déterminer le sexe à partir de cette donnée-là, si toutefois le bassin est conservé, bien conservé, et si toutefois il s'agit d'adultes, parce que cette information-là, elle n'est pas disponible sur les enfants. C'est pour ça qu'on a, entre guillemets, pas mal de déchets dans la détermination du sexe, parce qu'il y a beaucoup d'individus sur lesquels la détermination, l'observation de l'os coxal n'est pas possible. Il y a aussi les méthodes génétiques, l'ADN. On peut déterminer le sexe par rapport à l'ADN. Et puis, il y a une nouvelle méthode qui a été mise au point il y a peu de temps, qui porte sur ce qu'on appelle la cochlée, qui est un petit os qui se trouve dans l'oreille et qui est différent selon qu'on est une femme ou un homme, un garçon ou une fille. Donc on peut l'appliquer aux enfants. Mais encore faut-il que l'os en question soit conservé, évidemment. C'est toujours ça le problème avec l'archéologie, c'est l'état de conservation des os.
Et quels sont les types d'objets que l'on va retrouver dans les nécropoles ?
Alors on trouve pas mal d'objets dans les nécropoles. On trouve des haches qui sont fabriquées dans des roches qu'on dit tenaces, c'est-à-dire des roches très dures, qui, quand on les polie, deviennent brillantes. On trouve aussi des flèches, dont on ne retrouve que les armatures, mais on sait que ce sont des armatures de flèches. On retrouve des bijoux, on retrouve aussi des parures cousues qui devaient être cousues sur des tissus, sur des bandeaux de tête, sur les manches, sur les capuches, sur les épaules. Donc il y avait certainement beaucoup d'objets, de vêtements brodés, de perles en coquillage notamment, ou en os. Il y a aussi divers objets plus ordinaires, comme des éclats de silex, comme des meules à grains, comme des poteries aussi. On trouve aussi quelques poteries. Donc un éventail d'objets assez important.
Donc à la fois des objets du quotidien et puis des objets plus extraordinaires.
Plus particuliers. Et notamment les haches dont je parlais tout à l'heure, elles sont faites en amphibolite et l'essentiel de cet amphibolite provient de gisements qui se trouvent en République tchèque. Donc elles viennent en fait de loin. De loin pour les endroits où les gisements ne sont pas à proximité. Mais en tout cas, elles ont diffusé dans quasiment toute l'Europe rubanée. Et le fait qu'elles viennent de loin en fait certainement des objets avec un statut particulier.
Tu évoques à plusieurs reprises la masculinité ou la virilité de certains objets. Tu les rattaches à l'identité masculine et en particulier à la chasse ou à la guerre. Moi, j'aurais voulu savoir comment est-ce qu'il est possible de caractériser ces objets comme étant masculins et caractériser d'autres objets comme étant féminins ou mixtes ? Quels sont tes critères ?
Les critères résident dans l'association entre le sexe des individus et les objets qu'ils ont avec eux. Certains hommes rubanais, je dis bien certains parce que pas tous, sont systématiquement associés à une hache, une herminette en fait, en amphibolite, dont je parlais tout à l'heure, d'une part. D'autre part, ces hommes-là, ils sont tous d'origine locale, c'est-à-dire qu'ils sont nés et ils sont morts au même endroit. Donc il y a une relation entre le sexe masculin, la hache ou l'herminette en amphibolite, et la localisation et le fait que ces personnages soient d'origine strictement locale. Tous.
Ça, c'est un signe de masculinité.
Alors, c'est un signe de masculinité dans la mesure où le territoire, la terre arable, puisque ce sont les premiers agriculteurs, avait certainement une importance capitale. les néolithiques, les rubanais, arrivent par petits groupes successifs dans des zones qu'ils ne connaissent pas, qu'ils défrichent en partie, dans lesquelles ils s'insèrent, dans lesquelles il y a d'autres populations qui sont les mésolithiques. Et donc, il y a une emprise sur un territoire qui se fait. Et cette emprise, elle doit se manifester d'une manière ou d'une autre, elle doit être visible, elle doit se matérialiser par un insigne quelconque. Et je pense, moi, que la hache en amphibolite, c'est un insigne d'appartenance au territoire et un insigne de masculinité.
Les biens funéraires accompagnant les 378 individus rubanais retenus pour cette étude présentent des disparités significatives. Que nous disent les données du côté des femmes ? D'abord, l'équipement des femmes n'est généralement pas spécifique. Mais il n'est pas pour autant superflu de s'interroger quant à la signification de ces biens dans les tombes féminines. Si l'on note les 8 aiguilles en os qui accompagnaient la femme 37 de Trotzingen, qui peuvent s'interpréter comme les vestiges d'un peigne à dents libres maintenu ensemble par une poignée en matière périssable, les biens d'équipement des femmes sont réduits à 14 objets pour 107 individus, toutes traditions confondues. Autant dire à presque rien. Cela signifie-t-il pour autant que l'équipement des femmes dans la mort n'est pas un sujet de préoccupation pour la communauté ? Il faut peut-être plutôt envisager l'inverse. Il s'agirait d'une préoccupation négative qui consisterait à ne pas doter les femmes de biens d'accompagnement, comme la hache ou l'herminette, la flèche ou le briquet à percussion. Ces objets représentent des symboles masculins ou des marques de virilité, mais certains sont aussi liés à un usage en percussion, lancée perforante. Geste presque universellement masculin. Dans la mort, les femmes ne seraient donc pas destinataires des armes et outils liés à la chasse ou à la guerre, qui seraient des prérogatives masculines. Leurs conditions les priveraient également de l'accès aux sous-produits de la grande faune mammalienne sauvage, comme les andouillers en bois de serre. Et il est vraisemblable qu'elles en étaient pareillement exclues dans la vie. Extrait du chapitre 3, au Rubanais, le genre dans tous ses états, Anne Augereau, femme néolithique, le genre dans les premières sociétés agricoles, édité aux éditions CNRS en 2021.
Alors Anne, tu tentes de déterminer une division du travail en mettant en relation des objets, des types d'activités et le sexe des individus concernés. À quelles difficultés t'es-tu heurtée pour le faire et est-ce qu'on peut véritablement déterminer des rôles de genre au néolithique ?
La difficulté à laquelle je me heurte, c'est que en archéologie, on n'a pas de preuve absolue. On se contente de mettre en évidence des corrélations, des relations entre des objets, des analyses, des études, mais on n'a pas la certitude absolue que les observations découlent, comme on le pense, d'une division du travail propre aux hommes et aux femmes. Mais néanmoins, on a quand même des faisceaux d'indices qui nous permettent de dire que les hommes étaient plutôt investis dans les activités de chasse, puisque ce sont eux qui réunissent l'ensemble des flèches dans les sépultures, que les hommes aussi étaient investis dans des activités de guerre, de conflit, avec les flèches notamment, dont certaines ont été retrouvées dans les côtes de quelques jeunes hommes du Rubanais. Ils étaient aussi investis dans les conflits à l'aide des herminettes dont je parlais tout à l'heure, puisqu'on s'est aperçu que les massacres, il y a des massacres à la fin du Rubanais, il y en a pas mal, il y en a 3 ou 4 qui sont connus aujourd'hui, et on sait que ces hommes et ces femmes qui ont été tués l'ont été très probablement à coups de herminette. Donc l'herminette est aussi une arme. Donc les hommes chassent, guerre, mais aussi à l'aide des études de tracéologie, c'est-à-dire qu'on regarde sur les outils dans les tombes, à quoi ont servi ces outils, quelles sont leurs micro-traces, et on s'est aperçu que les outils des hommes étaient investis aussi, les herminettes notamment, dans le travail du bois. Donc les hommes cumulent travail du bois plus les activités dont j'ai parlé tout à l'heure, chasse et guerre. Et ils sont aussi investis dans des activités de boucherie, puisque une partie de ces herminettes ont sans doute servi à désarticuler des carcasses animales. Ça, c'est pour les hommes, et pour les hommes à herminettes. Et puis, du côté des femmes, l'analyse tracéologique des objets, qui a été menée après que j'ai réalisé le livre, montre aussi que les femmes sont investies dans le travail des peaux. Elles sont aussi investies sans doute dans certains endroits dans le travail des fibres végétales, puisqu'on trouve sur leurs dents des traces qui correspondent au passage d'un fil, et probablement un fil destiné à être ensuite utilisé dans de la couture, du tissage, etc. Et puis aussi, dernier aspect, les femmes ont des bras particulièrement développés, des muscles des bras particulièrement développés, à tel point que les personnes qui les ont étudiées comparent les attaches musculaires de ces femmes néolithiques à celles des championnes d'aviron actuelles. Donc, elles ne faisaient sans doute pas d'aviron, mais l'activité que l'on peut envisager pour expliquer ces marques, c'est la mouture sur des meules dormantes avec des gestes répétitifs. Donc on cale sur le sol une meule, on met le grain à moudre ou la substance à moudre et ensuite on frotte avec ce qu'on appelle une molette pendant des heures et des heures. Et du coup, ça forme un certain nombre de marques osseuses, d'attaches musculaires particulières.
Alors, y a-t-il d'autres éléments que l'archéologie met en évidence et qui permettent de distinguer les hommes et les femmes du Rubanais ?
En ce qui concerne l'alimentation, on a des données qui sont assez générales, mais qui sont néanmoins récurrentes. C'est-à-dire que les hommes à Herminette, et ce sont toujours eux qui reviennent, les hommes à Herminette, ils ont une alimentation particulière par rapport aux autres, femmes ou hommes. Ils ont ingéré une proportion de protéines animales plus importantes que les femmes et que les autres hommes qui n'ont pas d'herminettes. Ça, c'est la première chose. Alors, ça peut s'expliquer de différentes manières. Est-ce qu'ils consommaient les produits de leur chasse sur place, à l'endroit où ils chassaient, comme ça arrive dans certaines communautés d'agriculteurs traditionnels et de chasseurs-cueilleurs traditionnels? Est-ce qu'ils avaient un accès privilégié à la viande et aux produits laitiers que n'avaient pas forcément tous les autres de manière aussi importante? Et du coup, les femmes, par opposition, ont une alimentation plus variée, avec plus d'éléments végétaux, de féculents, ce qui se voit dans les mesures chimiques que l'on fait, mais qui se voit aussi dans les proportions de dents cariées, qui sont plus importantes chez les femmes que chez les hommes. Et les caries sont dues principalement à la consommation de féculents notamment.
On peut dire que les femmes sont en moins bonne santé que les hommes ?
Alors, les femmes sont en plus globalement en moins bonne santé que les hommes. C'est-à-dire qu'on a fait des analyses à l'échelle du Rubanais et qu'on a comparé avec ce qu'on connaît de la période juste avant, qui est le Mésolithique. Et on s'est aperçu que du passage des chasseurs-cueilleurs mésolithiques aux agriculteurs néolithique, eh bien, l'ensemble de la population a d'une part réduit en taille, hommes et femmes, et en masse corporelle, mais que chez les femmes, ces tendances sont plus importantes que chez les hommes. Donc il y a une moins bonne santé lors du passage à l'économie de production, à l'agriculture, mais une moins bonne santé qui se voit de manière plus importante chez les femmes que chez les hommes.
Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé des déplacements. Tu nous as dit que probablement les hommes ne se déplacent pas et sans doute les femmes se déplacent plus. Et c'est aussi une façon de les distinguer. Tu nous as aussi parlé de la violence masculine. Il y a une autre distinction entre les hommes et les femmes, c'est celle de l'emplacement de leurs tombes à l'intérieur des villages. Je ne sais pas si on peut parler de villages d'ailleurs.
Non, ce n'est pas à l'intérieur des villages, c'est dans les nécropoles. On a une structuration, comme on dit en langage spécialisé, de l'espace funéraire un peu particulière, avec souvent, ce n'est pas le cas à 100%, mais c'est quand même un cas très fréquent, une tombe d'homme à herminette au centre. Un homme qui a donc au moins une herminette, mais aussi des armatures de flèches, mais aussi des andouillés en bois de serre, qui est un symbole de virilité, mais aussi des briquets, mais aussi tout un tas de choses. Donc des tombes riches d'hommes, au milieu des groupes de tombes, et autour de ces tombes d'hommes avec un mobilier funéraire important, on a d'autres hommes, avec seulement des haches et moins de mobilier. Et puis on a les femmes autour d'eux. Et donc, on envisage, à partir de cette structuration avec un homme riche central, des hommes moins riches et des femmes autour, qu'il peut y avoir une forme de hiérarchie entre ces hommes riches et ces hommes à herminette malgré tout, mais moins riches.
Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas seulement des différences de genre, mais qu'il y a une nette différence sociale entre les individus.
C'est une hypothèse qu'on peut développer. C'est une hypothèse qui, pour moi, est tout à fait recevable, que le Rubanais se caractérise par une hiérarchie sociale assez forte, avec une structure pyramidale, avec au sommet un patriarche, donc ces hommes avec beaucoup de mobilier funéraire, et puis autour d'eux, d'autres hommes, également chefs de famille, mais à un degré inférieur. Et puis, en dessous de tous ces gens-là, la majorité, entre guillemets, silencieuse, si j'ose dire, qui est composée de gens, entre guillemets, du commun. Voilà. Donc, pour moi, c'est une hypothèse que je développe, qui ne fait pas l'unanimité, parce qu'effectivement, en archéologie, on n'a jamais la preuve absolue des choses, mais c'est une hypothèse qui me semble tout à fait plausible et probable au vu de l'ensemble des données, si on les compare entre elles, si on les confronte et si on essaye d'en tirer une image globale.
Donc, un système patriarcal.
Un système patriarcal. Ce que j'ajouterais aussi, c'est que concernant les femmes, d'une part, elles ont bougé plus que les hommes, et notamment leurs gènes, donc les gènes féminins, se sont dispersés de manière plus importante que les gènes masculins. Donc les femmes ont bougé, peut-être dans le cadre de systèmes de mariage patrilocaux, en tout cas pour une partie d'entre elles.
Alors, ton dernier chapitre est un bilan sur ce que tes recherches t'ont appris sur les femmes du néolithique. Est-ce que tu peux reprendre pour nous les grandes lignes de ce bilan, donc de la situation des femmes et de leurs relations avec les hommes dans le Rubanais ?
C'est en quelque sorte une synthèse de tout ce qui a été présenté ultérieurement dans le cours de l'émission et dans le livre. On peut tracer un portrait très grossier, mais en tout cas un portrait qui semble plausible de la condition des femmes, de ces femmes rubanées. D'abord, leur identité sociale semble moins marquée que celle des hommes, parce que certes, il y en a qui ont des parures importantes, que j'ai appelées femmes en apparat, mais ces parures ne leur sont pas spécifiques, puisqu'on les retrouve parfois aussi, en moins grande quantité, mais quand même dans les tombes d'hommes. Donc elles ont une identité un petit peu moins ferme et un petit peu moins marquée que l'identité des hommes, avec leurs haches, leurs briquets, leurs flèches, etc. Par ailleurs, j'ai aussi envisagé que les femmes pouvaient être dans un état de subordination par rapport aux hommes. Et il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent permettre d'avancer cette hypothèse. La première, on en a parlé tout à l'heure, c'est que c'est elle qui bouge, enfin c'est en tout cas une partie d'entre elles bouge pour contracter des alliances, et c'est pas le cas des hommes à herminette. Donc les femmes bougent plus, les femmes se déplacent plus et ça participe à ce que appelait Françoise Héritier une espèce de valence différentielle des sexes, puisque celle qui bouge, et ben c'est celle que l'on peut faire bouger. Il y a le fait aussi, et je vais revenir sur les massacres dont on a parlé tout à l'heure, dans ces massacres, on trouve des hommes de tous âges, on trouve des femmes âgées, on trouve des enfants et on trouve pratiquement pas de femmes en âge de procréer. Et on se dit, lors de conflits par exemple, il peut y avoir des conflits entre communautés voisines, et ces conflits ont pu conduire à l'assassinat de tous les individus de la communauté en question et l'enlèvement des femmes. C'est un trait de guerre qui existe encore de nos jours. On tue tout le monde et on emmène les femmes. Donc, pour que cela soit permis, eh bien, il faut que les femmes est une moindre valeur que les hommes, puisqu'on ne leur fait même pas l'honneur de les tuer, mais on les emmène ailleurs pour après servir à quelque chose qu'on ignore parce qu'on n'a pas les moyens de le savoir, mais en tout cas peut-être pour faire des enfants, par exemple.
J'ai une dernière question à te poser, mais auparavant, nous allons écouter une lecture de Clémentine.
Si l'on s'écarte d'une lecture univoque et réductrice qui fait de chaque femme une déesse, de chaque récipient un vase d'offrandes sacrées et de chaque tabouret un trône, si l'on refuse de postuler une uniformité de leur statut, d'autres fonctions et d'autres significations peuvent être imaginées. Ainsi, réétudiant les statuettes du néolithique de Crète, l'archéologue australien Peter Hucko émet plusieurs hypothèses. Certaines de ces figurines ont pu être des jouets d'enfants, d'où l'absence fréquente de bras, le caractère peu prestigieux des matériaux utilisés pour leur fabrication, le fait qu'on les trouve souvent dans des fosses de détritus, leur côté asexué et le fait qu'elles représentent parfois des animaux. D'autres ont pu être des amulettes destinées à protéger la grossesse ou des talismans portés par les femmes désirant des enfants. Ces hypothèses proposent un regard plus vivant qui, plutôt que de figer les femmes néolithiques dans la figure hiératique de la déesse, en fait des personnes réelles, vivantes et actives. Extrait du chapitre « Savoir et pouvoir », Claudine Cohen, « Femme de la préhistoire », édité aux éditions Belin en 2016.
Anne, je voudrais savoir ce que tu penses des diverses interprétations qui ont été faites autour des Vénus du Paléolithique supérieur et du Néolithique concernant la place et le rôle des femmes dans les groupes Homo sapiens.
J'en pense pas grand-chose, mais je dirais que l'hypothèse de la déesse mère, telle qu'elle a été développée par Gimbutas notamment, est une hypothèse pas convaincante dans la mesure où elle débouche sur une vision de la femme au centre de la société néolithique, puisqu'elle a surtout travaillé sur le néolithique. Elle a même envisagé, à partir de l'abondance de ces figures féminines, une société gilanique, c'est-à-dire pas gouvernée, mais en tout cas dont les rênes étaient tenues par les femmes, en tout cas peut-être aussi à égalité avec les hommes, sans conflit entre les sexes, dans une harmonie totale. Donc ça, c'est absolument pas convaincant, parce que ce type de société, d'une part, n'existe pas dans les récits ethnographiques, anthropologiques, qui ont été faits depuis plusieurs siècles. La domination masculine est quelque chose qui est bien documenté dans toutes les sociétés du monde, qu'il s'agisse de chasseurs-cueilleurs, qu'il s'agisse d'agriculteurs, ou qu'il s'agisse également de sociétés modernes, puisqu'il y a eu des études de fait sur ce plan-là, ethnologiques, donc dans les sociétés modernes. Donc la domination masculine, c'est quelque chose de central et de quasiment universel. Donc une société gouvernée par les femmes me paraît tout à fait douteuse, d'autant plus que ces figurines sont en fait une représentation des femmes et ne sont pas du tout une représentation de la réalité des femmes de l'époque. Je vous ai dit tout à l'heure que ces femmes étaient très musclées, qu'elles avaient une activité physique extrêmement intense, et donc elles n'étaient pas les grosses dames telles qu'elles sont représentées, que ce soit la Vénus de Çatalhöyük en Anatolie, ou d'autres Vénus qui ont souvent des formes très, très rebondies et très généreuses. Donc ce sont des représentations féminines, certes, mais c'est en aucun cas des représentations qui correspondent à la réalité de ces femmes. Peut-être que certaines de ces figurines, en tout cas une archéologue grecque en a fait l'hypothèse, certaines de ces figurines ont pu servir comme support pédagogique pour les femmes, pour l'accouchement par exemple, parce qu'on a certaines avec quelque chose qui apparaît entre les cuisses, qui pourrait être la tête d'un bébé. Enfin, c'est quand même assez flou comme représentation. Ça pourrait être aussi des figurines qui sont des poupées. Là, pour le coup, cette hypothèse-là me paraît tout à fait vraisemblable parce que ce type de phénomène a été observé dans le Rubané notamment, et aussi dans des sociétés archaïques traditionnelles où effectivement on donne aux petites filles des poupées pour leur apprendre à s'occuper des enfants. Donc le jouet poupée, comme chez nous d'ailleurs, est aussi une manière d'apprendre aux petites filles à devenir des mères. Donc là, je pense qu'effectivement, c'est une hypothèse tout à fait plausible. Et dans le Rubanais, on trouve des poupées composées de fragments d'os de différentes tailles où sont représentés les yeux, le nez et le plus grand os porte dans son dos un plus petit os qui pourrait être un bébé porté, et on retrouve ce type d'objet dans des sociétés traditionnelles actuelles. Donc là, pour le coup, moi je serais plutôt...
Et Claudine Cohen évoque aussi des grands-mères, le fait que ça pourrait être des corps matures qui seraient des grands-mères et qui montreraient l'importance du rôle des grands-mères dans l'éducation des enfants au paléolithique supérieur.
Des grands-mères, parce que moi je connais l'hypothèse des grands-mères qui a été développée par Pascal Pic et d'autres, et qui dit que la ménopause chez les femmes, enfin chez l'espèce humaine, s'est développée pour qu'un certain volant de femme ne puisse plus avoir d'enfants, pour justement s'occuper des petits, qu'il y ait des représentations féminines reliées à ça. Je n'en sais absolument rien et je ne suis pas certaine que ça soit... Pourquoi pas, mais pourquoi ?
Alors nous allons attaquer maintenant la troisième partie de ce podcast en nous demandant pourquoi et comment modifier l'enseignement de la préhistoire dans le secondaire pour en extraire les stéréotypes de genre et y faire entrer des analyses de genre. Alors, le programme de 6e est le seul programme du secondaire à prévoir d'aborder la préhistoire, avec malgré tout 3 chapitres. Donc, un chapitre sur les débuts de l'humanité qui est centré sur le paléolithique, un chapitre sur la révolution néolithique et un chapitre sur les premiers états et les premières écritures. Ce programme, bien sûr, n'invite pas spécifiquement à travailler le genre, mais malgré tout, il mentionne les femmes sur le néolithique. Si je vous lis un petit extrait, « L'étude du néolithique interroge l'intervention des femmes et des hommes sur leur environnement. » Il invite à se poser la question de la différenciation des sexes. Donc, comme d'habitude, nous avons, avec Clémentine, été regarder les manuels scolaires. Et nous avons comparé deux manuels, donc le manuel Attier, 6e, et le manuel Le Livre Scolaire, 6e. Et je vais demander à Anne et à Clémentine ce qu'elles en pensent. Donc ma première question, que pensez-vous de la formulation des programmes sur la préhistoire ? Et ensuite, du coup, deuxième question, que pensez-vous de la façon dont les manuels que nous avons examinés les traitent ?
Ce que j'ai remarqué, c'est que dans Attier, comme dans le manuel en ligne, le livre scolaire, ce sont uniquement des personnages masculins qui illustrent les types humains pour la préhistoire la plus ancienne. Et à mon avis, il me semble qu'il faudrait une fois un masculin, une fois un féminin, lorsque l'on illustre les différents types humains qui se sont succédés, une fois l'un, une fois l'autre, ça serait peut-être pas mal de faire ça. Les programmes sur la préhistoire, de manière générale, alors moi je suis un petit peu mal placée pour parler de ces programmes parce que je ne suis pas enseignante et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire passer auprès d'enfants de cet âge
Mais toi en tant que chercheuse, archéologue, qu'est-ce que tu aimerais faire passer à des enfants de cet âge-là?
Alors il y a un fil conducteur peut-être qui pourrait être retenu, c'est les activités. Les activités, ça renvoie à l'économie. On passe des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs. Ça renvoie à la division du travail, les hommes, les femmes. Ça renvoie aussi à l'habitat. Ça renvoie aussi à la manière dont on taille le silex. Ça renvoie à plein de domaines avec un fil conducteur. C'est que faisaient les hommes et les femmes de la préhistoire? Quelles sont les évolutions qu'on peut constater de ce point de vue-là, d'une période à l'autre? Peut-être que ça serait quelque chose qui pourrait être développé.
Toi, Clémentine ?
Oui, donc je rejoins complètement Anne hein, pour dire qu'effectivement, c'est notamment le premier chapitre qui s'intéresse sur les débuts de l'humanité. On voit très rarement des femmes. Le but de ce chapitre-là, c'est vraiment de montrer l'évolution des espèces humaines, de leur migration essentiellement. Et sur les représentations qui sont faites, qui sont généralement des dessins d'ailleurs, il y a très peu de squelettes hein, qu'on peut trouver dans les manuels scolaires par exemple. Ce sont des dessins très stéréotypés. L'espèce humaine est masculine. D'après les manuels scolaires et même d'après le programme, on peut de temps en temps voir la figure de Lucie. Voilà. Et encore, c'est discutable. Hein. On a vu, même sur le Lucie, était-elle une femme ? Voilà, c'est quand même remis en question. Il y a une démarche aussi assez marquée sur le travail des archéologues pour justement savoir comment on retrouve les traces de ces premiers hommes. Donc, on parle toujours pas de femmes. Et les femmes, on va pouvoir les amener petit à petit, plutôt dans le chapitre 2 sur la révolution néolithique. Alors, se pose quand même la question des activités, parce qu'on parle de la sédentarisation au néolithique, et donc du coup forcément de la vie nomade au paléolithique. Mais voilà, jamais sans trop se poser de questions sur quel était le rôle des femmes et des hommes dans ces sociétés. On va pouvoir commencer à les voir apparaître sur le chapitre 2 et un peu plus sur le chapitre 3, mais c'est quand même très embryonnaire.
Pour le coup, quand même, le programme n'interdit absolument pas de se poser la question des femmes.
Non, je pense pas. Après, ça nécessite quand même que les enseignants et enseignantes soient bien formés sur la question à la fois de la préhistoire et puis surtout des études de genre, parce que c'est effectivement le seul chapitre qu'on voit sur la préhistoire. C'est quand même pas le domaine qui est le plus enseigné dans les formations des enseignants et enseignantes. Si en plus, on s'y connaît pas trop sur quel type de questions on peut poser pour faire de l'histoire du genre, c'est quand même très compliqué.
Oui, c'est sûr que si on n'utilise que les manuels scolaires, là, c'est limite mission impossible.
Déjà, je pense qu'on peut s'estimer heureux quand on a des enseignants ou des enseignantes qui prennent vraiment soin à parler d'hommes et de femmes ou d'êtres humains et pas juste d'hommes avec une majuscule. C'est bien gentil la majuscule, mais c'est invisible, toujours les femmes.
De ce point de vue-là, quelle différence entre le manuel Attier et le livre scolaire que tu as comparé ?
La différence était quand même assez importante. Je ne vais pas être très gentille avec le manuel du livre scolaire parce qu'on y voit absolument aucune femme. On voit juste à la toute fin sur une double page où il n'y a même pas de questionnement pédagogique. On voit la dame de Brassempouy et c'est tout. Et du coup, la dame de Brassempouy, c'est juste un visage avec des cheveux. Et on avait fait l'hypothèse d'une résille posée sur les cheveux, mais on ne voit pas son corps. Elle est du paléolithique supérieur. Donc déjà, on a quand même peu d'éléments, c'est pas une représentation complète d'une femme, il n'y a pas de questionnement dessus, donc c'est complètement laissé libre à l'enseignant ou l'enseignante de l'utiliser, mais sans aucune aide en fait pour savoir quoi faire de cette figure-là. Donc c'est un peu dommage. Dans le manuel Attier, c'est un peu mieux fait. On voit un effort assez marqué hein, de parler d'hommes et de femmes, de ne pas oublier les femmes en fait dans la manière de traiter le sujet. L'approche archéologique est aussi plus marqué, je trouve. On va trouver beaucoup plus de mobilier archéologique, beaucoup moins de vues d'artistes dans le manuel Attier que dans le manuel Le Livre Scolaire. Et il y en a une quand même, aux pages 24-25, sur le campement de Pinzevent, qui est, à mon avis, bien faite, parce qu'on voit plusieurs figures féminines, mais pas complètement stéréotypées. On voit une femme avec un homme à la taille du silex, ce qui est quand même pas non plus dans les représentations communes. On voit une femme avec un enfant, l'enfant est là, assis, il est en train de jouer, je pense. La femme est en train de tanner une peau, donc voilà. Et on voit, derrière les tentes, on voit deux hommes qui reviennent de la chasse. Donc là, il n'y a pas de femme, effectivement. J'ai trouvé que c'était une vue d'artiste qui était un peu plus proche, en fait, du discours scientifique, de ce qu'on sait réellement des activités des hommes et des femmes. Là où, dans le livre scolaire, il me semble qu'on a une vue d'artiste où il n'y a même pas de femmes, du tout. Voilà, ce qui est assez significatif.
Dans les deux, il me semble que le texte de la leçon évite soigneusement de féminiser. Il n'y a que les hommes préhistoriques.
Il n'y a que les hommes préhistoriques, et généralement, ce qui est fait pour éviter de tomber dans cet écueil de en fait on oublie les femmes, c'est qu'on va parler juste de l'espèce. Voilà. Et c'est en ça où je disais tout à l'heure que ce chapitre-là est plus un chapitre qui va montrer l'évolution de l'espèce humaine plutôt que justement se centrer sur Homo sapiens et le rôle genré ou pas des membres de l'espèce, quoi.
Est-ce que là, toutes les deux, vous pensez que là, c'est la vulgarisation qui rend impossible de faire apparaître les rôles de genre ou les femmes ? Est-ce que la vulgarisation oblige à simplifier ?
La vulgarisation, elle dit ce qu'on a envie de dire. Si on veut faire ressortir un aspect, les rôles de genre, le rôle des hommes et des femmes, pourquoi ne pas le faire ? On a aujourd'hui un certain nombre de données qui permettraient de le faire. Là, on s'en tient à une approche assez classique de la préhistoire. On pourrait tout à fait remodeler les choses, tout en les rendant accessibles à des enfants de sixième. Enfin, moi, je pense que c'est pas impossible. Tout peut être dit avec dans la vulgarisation.
Et effectivement, je rajouterais même que la manière de vulgariser qui est souvent utilisée auprès des élèves de sixième, c'est le dessin. Et encore une fois, je reparle de la vue d'artiste. Si on compare le livre scolaire et le manuel Attier, sur ces vues d'artiste, justement, on voit très bien la différence. La vue d'artiste dont je parlais tout de suite sur le navire a été beaucoup plus compliquée à faire que la vue d'artiste du manuel du livre scolaire, où on voit que des hommes même pas habillés d'ailleurs, qui, en plus de véhiculer un stéréotype d'une société exclusivement masculine, montrent des hommes en fait qui sont entre guillemets pas civilisés, c'est-à-dire que bah, visiblement quand ils sont tout seuls, ils sont pas fichus de se faire des avis hein, avec les peaux des rennes qui chassent. Donc c'est quand même très marquant. La vulgarisation est effectivement, je pense, tout à fait possible, ne serait-ce que de mentionner des femmes avec toutes les statuettes qu'on a, avec toutes les représentations.
Alors les statuettes, parlons-en, parce que finalement, les seules femmes qui sont présentes réellement, ce sont ces statuettes. Et est-ce que finalement, ça renvoie pas une image assez biaisée des femmes de la préhistoire ?
Probablement, hein, parce que souvent on utilise la Vénus de Willendorf, on la voit apparaître dans quasiment tous les manuels, c'est probablement la plus connue. Effectivement, si on met pas de vue d'artiste, qu'on met que des squelettes et la Vénus de Willendorf, sans expliquer derrière, il y a de fortes chances que nos élèves de 6e se disent « Ah, bah, les femmes du néolithique, elles étaient grosses. »
Des grosses dames.
Voilà. C'est intéressant d'étudier ces figures féminines, mais dans le cadre de ce qu'est le métier d'archéologue. C'est un thème qui pousse vraiment à faire comprendre aux élèves ce qu'est l'archéologie et comment on arrive à reconstituer l'histoire de populations dont on n'a pas de traces écrites. Et justement, ces statuettes étant du mobilier archéologique, je pense peut se poser sur ça pour questionner les représentations. Et
donc, on pourrait imaginer, Anne, de mettre d'autres types de sources,
oui,
concernant les femmes ou le genre.
D'autres sources existent. Et notamment, il y a un certain nombre d'artistes qui travaillent avec les archéologues pour illustrer la taille du silex, le tannage des peaux, la fabrication des meules, qu'est-ce qu'il y a d'autre, l'abattage d'un arbre, en fonction de ce que l'on connaît des activités genrées correspondantes. Et je pense notamment à un artiste qui s'appelle Benoît Clarisse, qui est belge et qui a fait des images, qui fait des images d'archéologie, de personnages archéologiques en activité, qui sont pour moi remarquables. Et donc on a des femmes en train de meuler, on a des hommes à la chasse, on a un homme avec en train d'abattre, plusieurs hommes en train d'abattre un arbre. On a tout un tas d'activités qui sont illustrées en fonction de ce que l'on connaît sur les activités des hommes et des femmes au cours de la préhistoire.
Et est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, utiliser des documents qui sont dans ton livre, des tableaux statistiques, par exemple,
Je pense que ça peut
être exploité
absolument
de façon très intéressante, justement, pour distinguer les genres et puis faire un petit bilan des activités dont on est sûr qu'elles se répartissent entre hommes et femmes.
Il y a notamment un tableau qui est très intéressant, qui résume assez facilement quel objet servait à quoi et à quel genre il pouvait être attribué, soit exclusivement masculin, soit exclusivement féminin, soit mixte.
On ne sait pas.
Soit on ne sait pas, il y a des points d'interrogation, effectivement. Je pense notamment à certains... par exemple, ils font tester aux élèves le propulseur des sagaies, ce qui peut être intéressant. Sur la taille du silex, notamment... reconstituteurs sont intéressés aux questions de genre, ils montrent bien effectivement que la taille du silex ne nécessite pas une force musculaire si importante que ça, si vraiment on s'en tient aux détracteurs qui vont dire que c'est trop difficile à faire pour une femme qui avait peu de muscles. Bon, on a bien vu avec Anne, visiblement cet argument ne tient pas du tout. Mais ça peut être intéressant aussi de montrer aux élèves, garçons comme filles, qui peuvent tailler du silex, ça leur permet de comprendre déjà, toucher l'objet, de comprendre comment c'était fait, de mettre autre chose que juste des images Et ça peut permettre aussi de montrer que oui, les filles peuvent tailler du silex aussi. Ça permet de questionner un peu ces questions de genre. Alors, par la matérialité.
Les filles peuvent tailler le silex, ça c'est sûr, mais les filles préhistoriques, faut se poser vraiment la question.
J'ai lu que c'était mis en doute.
C'est pas que c'est mis en doute, c'est que bon, il y a tout un tas d'études anthropologiques, ethnologiques, etc., qui montrent qu'il y a vraiment une division du travail entre les hommes et les femmes à l'échelle mondiale et dans tout type de société. Les hommes, ils sont plutôt dans des activités où on tape, on perce, on arrache, on tire, on déchire la matière. Par exemple, c'est Alain Testard qui disait ça. Il y a vraiment, même dans les suicides, il y a vraiment des suicides de femmes et des suicides d'hommes. Les hommes se suicident par arme à feu, majoritairement. Et les femmes se coupent les veines ou prennent des médicaments. Et c'est vraiment statistiquement extrêmement marqué. Et l'hypothèse de Testard, c'est que les femmes ne taillaient pas le silex parce que, après on peut discuter de cette interprétation, mais parce que le silex sert à couper, sert à faire couler le sang, sert à chasser, et que les femmes ont elles-mêmes des désordres, enfin en tout cas c'est comme ça que les hommes le verraient, ont elles-mêmes des désordres qui font que le sang coule toute seule d'elle-même. Et donc elles sont incapables de maîtriser les effusions sanguines. Et du coup, on cantonne les femmes à des activités où on écrase, où on perce, où il n'y a pas de ce qu'on appelle la percussion lancée en fait. Cette dichotomie est expliquée par Testard par ce qu'on appelle le tabou du sang. Les femmes ne maîtrisent pas les flux de sang et donc il faut les exclure d'une part de la chasse, de la pêche qui fait couler le sang, et d'autre part de la fabrication des outils qui permettent la chasse et la pêche. C'est une interprétation. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une dichotomie dans les gestes entre les hommes et les femmes, et ça, c'est statistiquement documenté.
Mais du coup, elles utilisaient les grattoirs pour gratter les peaux ou
alors, il est possible tout de même que les femmes taillent le silex. Dans la mesure où elles ont besoin d'outils pour gratter les peaux, pour couper je ne sais pas quoi, enfin bon bref, ce qu'elles ont à faire, et qu'elles taillent elles-mêmes leurs propres outils sans être dépendantes des hommes. C'est probablement le cas au paléolithique, c'est aussi probablement le cas au néolithique, mais il n'empêche que la taille des matières rares ou des matières exotiques, ou des matières de très bonne qualité, comme l'obsidienne et certains silex, etc., sont certainement utilisées exclusivement par les hommes, parce que c'est avec ça qu'on fait les armatures de flèches, les armatures de faucilles, etc., etc. Donc, sans doute que les femmes taillaient le silex, mais que les hommes se réservaient la bonne matière première pour faire leurs propres outils, notamment pour aller à la chasse.
Voilà, d'où la nécessité d'avoir une bonne formation sur paléolithique, néolithique, pour pouvoir justement utiliser les ressources qu'on a, nous, en tant qu'enseignants et enseignantes, les manuels, les musées, ou en l'occurrence, parc archéologique, et pouvoir expliquer aux élèves un peu, pouvoir nuancer ce qu'ils peuvent expérimenter, ce qu'ils peuvent voir, ce qu'ils peuvent lire.
Oui, on rêverait de manuels d'histoire dans lesquels toutes ces nuances pourraient apparaître et dans lesquels on pourrait parler des rôles des hommes, des rôles des femmes et de ce que chacun peut faire. Enfin bon, ça pour l'instant, c'est pour l'avenir.
On y travaille.
Si je peux me permettre, je peux vous conseiller deux lectures. Je peux vous conseiller Alain Testard, un livre qui s'appelle « L'Amazone et la cuisinière », qui est sur la division du travail. Et puis Paola Tabet, qui a écrit un gros article qui s'appelle « La main, les armes, les outils ». Où elle montre bien les mécanismes. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que quand une technique devient un peu sophistiquée, les hommes s'approprient la production en question. Par exemple, Paola Tabet a observé que la poterie, quand il s'agissait de monter les céramiques au colombin, c'est-à-dire de manière assez simple, c'était un travail de femme. Et dès lors que le tour de potier a été inventé, petit à petit, c'est devenu un artisanat masculin. Testard est dans les pas de Paola Tabet. Ils étaient dans le même labo, mais il l'a quand même royalement ignoré.
Anne Augereau, Clémentine Letellier, je vous remercie énormément pour ce défrichage des programmes de 6e et des manuels scolaires. Vous nous avez donné plein d'idées, on voit qu'il y a énormément de choses à développer et j'espère que les enseignants qui nous écoutent, eh bien, ça va leur donner des idées et qu'ils vont aller puiser dans vos propositions. Merci et au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ce podcast est produit par l'association Mnemosyne. Avec Cécile Béguin à la production, Fanny Cohen-Moreau à la réalisation et Clémentine Letellier à la lecture des textes.